votre nom, Rarota, de l'Université de Murcia, va nous parler des dialogues, des interprétations, les trois philosophes de Giorgione. Monsieur Rarota est professeur à la fois à l'Université de Murcia et à la Humboldt-Université de Berlin. Et il nous vient donc à la fois de la philosophie et de l'histoire de l'art. Et
bonjour, merci pour l'invitation à participer dans ce colloque qui, bien sûr, se présente comme un modèle de discussion avec beaucoup de risques, surtout par l'interdisciplinarité des participants. Mais peut-être la chose plus importante, c'est de pouvoir arriver à se construire des petites cartes provisionnelles sur une problématique qui, bien sûr, a une centralité indiscutable, comme c'est la tolérance devant un monde mondialisé, globalisé, comme notre ami Brian Stock disait ce matin. Et je préférerais de trouver un petit modèle pour pas présenter la question, mais seulement pour organiser le minimum de ce dialogue entre cultures. Je préférerais de prendre ces trois tableaux qui, entre 1604 et 1614, s'organise autour d'une idée que, dans ce moment-là, a déjà la dimension d'un programme scientifique et culturel. Ils ont été les historiens du 400, surtout pas les historiens de l'art, mais surtout les historiens culturalistes. Je parle de Peter Zumthor, Hans Blumenberg, qui donnait comme perspective pour l'étude de ces années-là la difficulté pour oublier le système de la connaissance qu'on avait privilégié toute l'expérience du XIIIe et XIVe pour s'ouvrir à une perspective nouvelle dominée par la géométrie. Et c'est pour ça qu'on pourrait comparer, c'est un exercice surtout de comparaison entre un modèle représenté par les trois philosophes de Giorgione et le modèle géométrisant qu'on retrouvera pendant les années suivantes. Vous savez que Giorgione encore reste un artiste, un peintre, avec beaucoup d'ombre et beaucoup de difficultés interprétatives. C'est très curieux que l'absence de documentation nous donne toujours encore des avantages pour faire et reproduire des interprétations tout à fait libres. Il n'existe pas un canon sur Giorgione. On peut dire, c'est peut-être que ça sera mon droit, de dire des choses qui ne sont pas jamais prouvées, mais qui restent toujours comme autour d'une expérience qui se représente à soi-même comme centrale. On pourrait dire que d'un côté, soit l'historiographie, soit aussi les travaux biographiques sur Giorgione, il y a des biographies fantasieuses comme celle de Ridolfi, ne nous prépare pas pour avancer dans l'interprétation. Mais on a resté toujours très proche de ce qui a été la lecture canonique. Leonardo, qui arrive à Venise en 1500, et que peut-être que ce rapport avec la culture vénétienne, l'héritage de Bellini d'un côté, la présence d'un très jeune Giorgione qui arrive de Castelfranco, et qui se représente devant une situation très particulière. Le premier résultat de cette rencontre a été justement l'élaboration de ce tableau que vous avez devant, que, comme avec tous les tableaux de Giorgione, a supporté des interprétations tout à fait différentes. Et on a représenté comme un tableau religieux, associé toujours aux trois rois qui arrivent, mais qui souffrent un procès à partibus de sécularisation dans les chemins peintres. Et d'autre côté, bien sûr, on les représente, c'est la discussion plus contemporaine, comme la perspective de la nécessité de concilier, de dialoguer entre les trois grandes cultures. Qu'on pourrait dire, on peut faire un double, ça serait des traditions religieuses, hébraïques à droite, arabes, islamiques au centre et chrétiennes à gauche, mais qu'on pourrait interpréter plutôt comme la rencontre de ces trois philosophies dans le moment que mesurer le monde reste comme le défi principal à l'époque. Avant de faire, je me reviens de vous présenter un petit moment avant le 1503, quand il arrive définitivement à Venise, on peut trouver à Castelfranco un modèle d'organisation de savoir que c'est le frise de la casa di Marta, ce friso qui organise la totalité des éléments intellectuels auxquels appartient Giorgione. Il faut savoir que Vasari ne l'évite qu'insistera précisément dans ça, que c'est que Giorgione ne vient pas d'une tradition picturale, artistique et éléments, mais qu'il appartient à un contexte culturel dominé surtout par l'hermétisme, ou ce qu'on pourrait dire dans ce moment, le rapport entre astrologie et astronomie. Vous pouvez organiser un peu sur ce tableau qui vient ici reproduit en séquence, mais dans la réalité diachronique, parcourt tous les frises de la maison. Il y a cette dimension de bibliothèque, se présente comme un studiolo, des livres fermés et des livres ouverts. Vous pouvez identifier dans le premier plan ce rapport de livres dominé par cette inscription qui vient à dire « Umbre transitus est tempus nostrum ». C'est très particulière cette observation de Giorgione qui reconnaît que son époque, c'est comme en tempus nostrum, c'est transitus umbre, c'est la transition des ombres qu'il faut traverser. Mais pour traverser ces ombres qui viennent écrites dans les matériaux littéraires qui sont au sommet du frise, on représente déjà toute une dimension iconographique très précise qui nous donne dans ce moment-là surtout les matériaux astronomiques, astrologiques avec lesquels sera possible cette mesuration du monde. Il y a tout d'abord cette sphère qui fait référence directe à la Sphère Mundi de John Hollywood, qui a été réestampée, réimprimée à Venise permanentement à partir de 1478. L'astrologie comme au centre, qui représentera toujours, il y a une absence très particulière de l'architecture, la fidélité, la fidélité à Alberti reste très lointaine, même si on a, mais ce n'est pas de l'architecture, c'est de la structure géométrique de ce élément. Et après, on reprend en bas les éléments, on pourrait dire, historiques de ceux qui ont commencé à parler d'un idéal culturel que c'est la divine proportion. Et c'est Ptoloméo égyptien, ou peut-être Abu Maser, qui vient d'écrire et publier à Habsbourg, dans 1489, de Magnis Conjunctionibus, et qui représentera directement l'idéal de la culture. Ça veut dire la production continuelle des instruments de mesure qui, à partir de la géométrie appliquée à l'astronomie et à l'astrologie, donne aux jeunes Giorgiones la possibilité de se placer pour cette interprétation du monde. De l'autre côté, c'est très particulier l'identification de Giorgione avec l'argument qu'on représentera ici. Ça, c'est justement toute la représentation de Tribune avec les matériaux littéraires qui ont représenté la connaissance et surtout la musique que vous trouverez surtout dans cette disposition des objets musicaux qui restent comme abattus. On a dit que ces instruments qu'on trouve dans les frises de Castelnuovo, on pourrait les interpréter comme des objets malinconiques, mélancoliques. Ils restent isolés pour dire que peut-être la musique, dans ce moment-là, n'a pas la puissance pour défier l'astronomie. Et même si on parle toujours de cette harmonie mundi, la musique qui sera le ton de cette harmonie ne réussira pas à organiser le monde. Il y a tout un débat sur la présence de la musique à ce moment-là. On pourrait même voir, c'est une référence politique directement associée à ce qu'on pourrait dire l'importance de la géométrie même pour le pouvoir politique. Il faut penser que tous les géométriques, tous les géomètres, à la limite, restent des ingénieurs militaires. Il faut penser que l'expérimentation, si on reste à Venise, l'arsenal devient la machine de pouvoir, soit marché, soit guerre, qui représente l'application de toutes ces techniques qui deviennent comme dérivées de la grande recherche technologique, scientifique à l'époque. Et finalement, pour les petits détails de cette viola vénitienne avec les quator fameux qui proviennent de traditions germaniques, qu'il se retrouve, c'est toujours la Venise que tout de suite visitera Dürer à l'occasion de son premier voyage en Italie. Quand il arrive, ça, on pourrait dire et reconnaître comme le monde intellectuel de Giorgione. Avant d'arriver à Venise, et c'est très curieux que justement c'est dans ce moment-là qu'il compose I tre filosofi. La difficulté à interpréter ce tableau, c'est justement c'est un tableau construit avec une intention très particulière. Il se représente un scénario dominé par les frises de Castelfranco et après ce changement de scénario, l'autre représenterait du plus les modèles iconographiques vasariens, tout près même des modèles romains, des grotesques romains illustrés. Mais ici, on représente cette histoire avec une dissociation très particulière. Tout d'abord, il est très fidèle à ces paysages qui, à gauche, se protègent en ombre avec une petite légende en la part supérieure où nous avons la date de 1504 et un petit exercice de combinatoire mathématique qui prolonge l'appartenir de Giorgione a un monde plus, on pourrait dire comme ça, hermétique. On a présenté l'opposition entre ces deux philosophes à droite que vous pouvez identifier. C'est très facile, on a écrit par confusion et par, je dirais aussi par contamination de Raphaël à l'école d'Athènes, au Vatican, que c'était justement la tradition grecque. Ce philosophe que vous avez à droite porte sur la feuille que nous présente des modèles géométriques et en plus quelques matériaux ésotériques. On a insisté beaucoup de l'appartenance aussi de Giorgione à la culture hébraïque vénitienne. Et on pourrait dire que c'est la représentation de la tradition hébraïque qui arrive jusque-là. Il n'a rien à voir avec la philosophie grecque. Et c'est possible que cette argumentation se centre précisément sur les éléments géométriques que vous avez illustrés dans la carte que philosophe ou hébreu nous présente. Il est en dialogue avec cette figure centrale qu'il construit d'une manière très précise. Iconographiquement, le tableau reste un tableau très sûr, très construit. Il reprend des éléments. Il faut savoir qu'à partir de la restauration de ce tableau, qu'on le trouve toujours à Kunsthistorisches Museum de Wien, les positions de les trois figures se modifient substantivement. La main de cet représentant de la culture arabe n'est pas comme tel, mais il s'appuie directement sur le ventre. Il est centré comme une reconnaissance de son corps. Ici, il y a une modification très particulière qui se présente là. Mais l'idée de Giorgione représente surtout l'importance d'un dialogue entre les traditions. Même si il nous présentera cet arbre bifurqué, que ça nous donne l'intention, cette bifurcation d'une séparation des traditions, à un moment dans lequel à Venise, on commence déjà les grandes collections de manuscrits antiques, dominées surtout par des manuscrits arabes, cette bifurcation de l'arbre, encore, il est très profonde. Quand on arrive à la condition isolée de ce jeune philosophe, ce jeune philosophe qui n'a rien à voir avec les traditions, qu'il est assis, il ne participe pas au colloque, et il se projette sur un domaine d'observation en tenant en main les éléments de la géométrie et surtout de la perspective. C'est la première fois que Giorgione utilise comme exceptionnel cette couleur verte qu'il fera toujours sienne, que sera la couleur d'une distinction particulière dans tous les domaines. C'est vert, c'est tout à fait nouveau et qui s'y présente en regardant surtout cette dimension qu'on peut voir en face, la construction d'un paysage et d'une architecture suggérée par les tableaux, on donne toujours un peu à la flamande et surtout à la tedesca une situation idéale d'une architecture qu'on pourrait se modifier. En 1932, Wilde il exige de faire une inspection avec de la condition des tableaux et on peut trouver que le dessin original se modifie totalement dans le moment qu'il arrive à donner une forme définitive au tableau. Quelles sont les raisons de cette difficulté à conférer une forme définitive au tableau, c'est pas possible à identifier simplement parce que la documentation sur Giorgione c'est vraiment très élémentaire. Nous sommes en 1704. Justement, 9 ans avant, dans 1495, Jacopo de Barbari fait le reportrait, le ritratto de Fra Luca Pacioli. Ce portrait qu'il se présentera justement comme le manifeste d'un moment, de la culture d'un moment qui verra construite à partir de ce traitato de la Divina Proporzione publié dans le 1498. Il faut savoir, c'est toujours été professeur Ossola hier soir, qui nommait Savonarola, et c'est très, très intéressant, pas seulement comme argument pour un bon roman, de penser que quand on fait le portrait, il traitato de la Divina Providenza, quell'anno stesso, c'est la même année que Savonarola vient exécuter, pour le dire comme ça. Ça veut dire que cet idéal de Giorgione ne réussit pas à avoir une efficace. Le dialogue ne produit pas les effets particuliers de cette histoire. Ce monde de Savonarola à Firenze, qui sera, parce que ne sera pas Savonarola en soi-même qui vient exécuter à Firenze, ce sont les idées de Savonarola qui sont tuées, justement, comme des idées impossibles pour arriver à cette histoire. On veut dire, nous restons sur une iconographie plus froide, avec une construction qui représente les mêmes idées que nous avions trouvées en avant, dans les frises de Castelfranco, par exemple. Au centre, nous avons Luca Pacioli, au centre, qui vient représenter justement comme un mathématicien. À un certain moment, on pourrait dire que la mathématique, la géométrie, l'astronomie et l'astrologie restent comme les disciplines à l'heure de tenter de mesurer le monde. C'est très important d'avoir présent que beaucoup de figures qui sont présentes au livre de la Divina Proporzione ont été réalisés par Leonardo pour Luca Pacioli. Il y a un rapport très particulier dans lequel les éléments, qu'on pourrait dire, du dialogue entre la culture hébraïque et la culture arabe, même la disponibilité de ce jeune homme qui se présente en train de se présenter comme géomètre, il est substitué absolument par cette figure centrale avec une illumination très spécifique. Sur la table, vous savez, ce répertoire merveilleux des objets emblématiques qui donnent au géomètre la puissance de présenter ses idées. Cette correspondance entre les livres d'Euclide sur la main gauche et les disegni qui représentent l'expérimentation géométrique plus tard. Cette correspondance entre le monde antique et les figures feront possible tout d'abord cette polyèdre qui se représente comme la forme géométrique idéale avec lequel on pourra construire ce monde. Monde qui restera toujours articulé à une dimension platonicienne qui vient surtout représenter cette sphère idéale en vêtre c'est pas un corpus physique, c'est le reste transparent pour nous donner l'idée que nous nous trouvons devant un ente idéal, une mesure idéale qui se présente là. Mais en même temps, il faut voir que ce n'est pas un exercice, une leçon de géométrie. Ici, surtout, je reprendrai tout de suite l'apparition de l'instrument principal de tout ce domaine, que ça sera le compasso da dividere. Ce compasso da dividere, que c'est l'élément instrument plus important de toute cette finale du 400. Mais en plus, Pacioli, il écrira son épître, son épistola à Venise nel 1509, quatre ans, cinq ans après qu'on a signé les trois philosophes, et ça vient représenter avec une dimension très particulière. On pourrait dire que c'est le même chien que nous trouvons ici, qu'il s'applique à organiser son expérience sur le domaine de la géométrie et qu'après, on se représentera ici de cette manière. On pourrait dire qu'à partir de 1720, il compasso da dividere il s'occupe de nous donner toute une transformation magnifique. C'est le compasso de Donato Bramante. Il a travaillé avec Leonardo al Castello Sforza e Leonardo, come disciple e come ami, le dit a Donato, Donato, tu sais que tu pourrais mesurer, tu le connaîtras. Et les choses que tu ne pourrais pas mesurer, tu ne les connaîtras. C'est la mesure qui vient et qui fera possible peut-être l'application del re edificatoria d'Alberti et surtout ce merveilleux disegno del Bramante per San Pietro in Montorio a Roma. Peut-être, ça c'est la perfection à l'intérieur de l'ordre qu'on ne peut pas substituer dans aucun domaine. Mais seulement, je dois finir, deux années plus tard, 1514, de nouveau, Dürer représentera que pour l'occasion, ça serait mieux de n'insister pas dans les colloques. C'est pour ça que Dürer, ça ne serait bien de l'inviter à ces colloques que cherche surtout. Et il a dit non, ça c'est mieux la géométrie que la mélancolie. Et tu peux voir ce polyèdre merveilleux comme stop à la mélancolie. Il faut s'ouvrir à la perspective d'une nouvelle civilisation, que ça sera justement cet ordre qui réussit à mesurer le monde. Nous n'avons pas encore la carte du monde. Il faudra attendre pour avoir le premier atlas en 1572 que Ortelius fera l'impression de ce premier atlas à Nuremberg. De ces trois philosophes à cette mélancolie et à la fin à cet atlas qui donnera à l'époque cette dimension stratégique pour la configuration du monde moderne que jamais pourra éviter ce geste malinconique qui arrivera jusqu'à Shakespeare. Bon, merci.